Mais qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Et bien sûr, podcastable n'importe où, n'importe quand sur le site de radiosaintfé.com. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Aujourd'hui, nous allons répondre à la demande express de l'une de nos plus fidèles auditrices, conteuse de talent de surcroît. Et je vais donc vous parler un peu des mille et une nuits. Alors, loin de moi la prétention de vous raconter les mille et une nuits. Ce que je souhaite, c'est seulement vous donner l'envie d'en savoir un peu plus, d'aller écouter les conteuses et conteurs qui sont spécialistes de ce répertoire. Et Dieu sait qu'il y en a, et qui comptent les mille et une nuits avec grand talent. Ou peut-être aussi, pourquoi pas, de vous plonger dans l'une des traductions de ce vaste recueil. Alors, pour commencer, un petit brin d'histoire, même si là aussi je ne vais pas m'étendre très longtemps. Il y a des spécialistes qui passent leur vie sur justement l'histoire de ce livre, c'est-à-dire l'histoire des Mille et une Nuits. Pour faire bref, les Mille et une Nuits seraient l'adaptation d'un ouvrage, l'adaptation en arabe d'un ouvrage persan, intitulé Mille Contes. La première traduction française est publiée par Antoine Galland en plusieurs volumes entre 1704 et 1717. Alors le grand mérite de Galland, ça va être de faire découvrir ces mille et une nuits en France. Sa traduction est un peu édulcorée, même très édulcorée en ce qui concerne les passages un petit peu érotiques ou sensuels. Et il supprime tous les poèmes qui sont inclus dans les contes. Et voilà. Et ensuite, donc le docteur Mardrus va publier une nouvelle traduction en 16 volumes entre 1899 et 1904. Alors cette traduction est dans un style très fleuri. Il réintroduit les poèmes et aussi des descriptions d'un érotisme débordant qui ne sont pas dans la version originale. Ensuite, c'est Kawan entre 1960 et 1980 qui se fonde sur une douzaine de manuscrits anciens et qui publie donc une nouvelle traduction. Les poèmes y sont présents, les descriptions érotiques supprimées par Galland sont réintroduites sans tomber dans les excès de Mardrus. Et enfin, en 1991, une quatrième traduction par André Miquel et Jamel Benchek pour les éditions de la Pléiade. Cette traduction se revendique comme intégrale et exacte, fondée sur l'édition de Boulac du nom de la ville égyptienne où le texte a été imprimé pour la première fois. Alors chacune de ces traductions a ses adeptes, a ses qualités et ses défauts. Le principe des mille et une nuits, ce sont les histoires à tiroir, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des histoires dans l'histoire. Et toutes ces histoires sont incluses dans un conte cadre que je vais évoquer pour vous ce matin. Et il y avait une fois un empereur qui gouvernait un empire qui s'étendait jusqu'aux confins de l'Inde et jusqu'aux extrémités de la Chine. Cet empereur avait deux fils. À sa mort, c'est son fils aîné, Shahryar, qui a hérité du trône. Shahryar était un cavalier puissant, un conquérant invincible. Il a dominé la région de Samarcande et il a fait don de ce royaume à son frère cadet, Shahzaman. Puis 10 années se sont écoulées. Les royaumes étaient prospères et les deux frères ne se sont pas vus durant tout ce laps de temps. Un jour, l'aîné, Shahryar, a souhaité revoir son jeune frère. Alors, il lui a dépêché son vizir avec force présent, des chevaux harnachés d'or, des bijoux précieux, des étoffes rares, et une lettre où il lui exprimait son vif désir de le revoir et il l'invitait à sa cour. Le vizir, donc envoyé par son roi, a fait ses préparatifs et s'est mise en route. C'était un très long voyage qui a duré pendant des semaines et enfin, il est arrivé aux portes de Samarcande. Là, le vizir a établi son camp, puis est allé transmettre le message et les cadeaux de Shahriar à son frère. Shahzaman s'est réjoui des nouvelles que lui apportait l'émissaire de son frère. Et il a fait envoyer au camp du vizir des provisions, viande et boissons pour les hommes, et puis fourrage pour les animaux. Et il s'est disposé lui-même à partir. Après 10 jours de préparatifs, il a délégué les pouvoirs à son propre vizir et son cortège est allé rejoindre le camp du vizir de son frère. Le départ était prévu pour le lendemain matin très tôt. Mais Shahzaman avait une jeune femme dont il était très épris. Durant la nuit, il s'est dit que il aimerait beaucoup embrasser encore une fois sa femme avant cette très longue séparation qui les attendait. Alors, il a pris son cheval et il a galopé jusqu'à son palais. Mais lorsqu'il est rentré dans sa chambre, son épouse y était bien, seulement elle n'était pas seule. Elle était enlacée avec un garçon de cuisine. Quand Shahzaman a vu ça, elle est restée stupéfait, tout est devenu noir autour de lui, puis la colère l'a embrasé, il a dégainé son sabre et il a tué les deux amants. Ensuite, il a repris son cheval, il a galopé jusqu'au camp et il a ordonné le départ, immédiatement, même si le jour n'était pas encore levé. Et ensuite, la caravane a cheminé et Shahzaman, le cœur déchiré par la morsure d'un feu qu'il ne pouvait éteindre, le souvenir de l'outrage que lui avait fait subir sa femme en osant le remplacer, lui, le roi, par un garçon de cuisine. Quand ils sont arrivés à la capitale de Shahriar, celui-ci est venu en personne à la rencontre de son frère. Il était tout joyeux, il l'a serré dans ses bras et il l'a installé dans un palais à côté du sien. Et Shahzaman passait toutes ses journées auprès de son frère, et le soir, il allait dormir dans son palais. Mais il gardait la mine sombre, il n'avait aucun appétit, il ne mangeait presque pas, il pâlissait chaque jour davantage et maigrissait à vue d'œil. C'est qu'il ne songeait, et il ne cessait de songer à sa femme et comment elle l'avait trahi. Bien sûr, Shahriar pressait son frère de questions, mais celui-ci ne voulait rien dire. Alors, le roi a fini par croire que son frère se déplaisait chez lui et il s'est dit qu'il allait le renvoyer à Samarcande. Mais avant, il a voulu tenter un dernier effort pour lui rendre la joie de vivre et il lui a proposé une partie de chasse qui les éloignerait du palais pendant 10 jours. Mais Shahzaman a refusé de venir. Il a dit « Non, non, va chasser mon frère, moi je n'ai pas le cœur à ça. » Alors Shahzaman est resté dans le palais des invités et Shahriar est parti à la chasse. Shahzaman était dans ce palais, la mine sombre, machinalement il s'est mis à la fenêtre. Cette fenêtre donnait sur un jardin intérieur. Et soudain, depuis la fenêtre, il a vu la grande porte s'ouvrir et 20 jeunes servantes entrer dans le jardin. Puis, derrière elles, l'épouse de son frère, la reine, qui marchait fièrement au milieu d'elle. Elle se promenait tranquillement dans le jardin, puis arrivée près de la fontaine, elles ont toutes quitté leurs vêtements et sur les 20 servantes, il y avait 10 femmes et 10 hommes. La reine qui s'était dévêtue comme les autres a alors appelé « Massaoud, Massaoud !» Et du haut d'un arbre, un homme de haute taille a sauté dans le jardin. Il a pris la reine dans ses bras, il l'a serrée sur son cœur et sous les yeux incrédules de Shahzaman, Les 11 couples se sont adonnés au plaisir jusqu'à la tombée de la nuit. Alors Massaoud est reparti comme il était venu. Les 10 hommes et les 10 femmes se sont rhabillés et tous sont rentrés dans le palais par la grande porte comme ils étaient entrés. Oh ! Mais Shahzaman, qui avait tout vu par la fenêtre, s'est dit « Mais mon frère qui règne sur la terre entière, et pourtant, au cœur même de son palais, il est humilié par sa femme, lui aussi. Alors je ne suis pas seul. Et finalement, sa disgrâce est encore bien pire que la mienne, se disait-il. Et finalement, avoir à souffrir des outrages des femmes, c'est bien le sort de tous les hommes, puisque mon frère, qui est le roi des rois, il en est là aussi. » Lorsque Shahriar est rentré de sa partie de chasse, il a été très étonné de voir son frère l'accueillir tout sourire, de voir les couleurs de la vie qui étaient revenues sur ses joues, et de le voir manger maintenant de fort bon appétit. « Mon cher frère, je t'ai laissé le teint jaune, la mine défaite. Je te retrouve en pleine santé, mais raconte-moi, explique-moi ce qui s'est passé. Je veux comprendre. Je peux te raconter, oui, la cause de ma tristesse première. Mais je ne peux pas te raconter ce qui m'a permis de me rétablir. Eh bien, je t'écoute. » Alors Shahzaman a raconté comment il avait trouvé sa propre épouse couchée avec un autre homme le jour même de son départ. Et comment il les avait tués avant de prendre la route. Mais il n'a pas pu s'arrêter là parce que Shahriar l'a tellement pressé de questions, il a tellement insisté pour savoir comment son frère avait réussi à se consoler d'un tel tourment que celui-ci a fini par lui raconter tout ce qu'il avait vu par la fenêtre. « Je ne te crois pas. Il faut que je le voie de mes propres yeux pour le croire, » a dit Shahriar. « Eh bien, c'est très simple. Annonce que tu pars à la chasse et puis regarde par la fenêtre de mon palais, comme j'ai fait moi-même. » Et ainsi, le roi a ordonné qu'il partait à la chasse. Et il est parti avec grand bruit, avec toute sa troupe. Mais le roi est revenu seul et avec son frère, à la fenêtre, il a assisté au spectacle qui lui avait été décrit. Elle a failli en perdre la raison. Puis il a dit à Shahzaman, « Eh bien, quittons ces lieux. Allons voir de par le monde si pareil malheur est arrivé à d'autres. Si nous sommes les seuls à l'avoir connu, mieux vaut mourir. » Et deux frères sont partis, ils ont quitté le palais, et ils ont marché pendant un jour et une nuit. Ils sont arrivés à une prairie au bord de la mer où poussait un arbre majestueux. Au pied de l'arbre coulait une source. Ils ont bu l'eau fraîche et puis ils se sont assis pour prendre un peu de repos à l'ombre de l'arbre. Et tout à coup, il y a un grand tourbillon qui s'est dressé au-dessus de la mer et qui s'est avancé vers la plage. Une colonne noire est sortie de l'eau. Et les deux frères effrayés ont vite grimpé dans l'arbre et se sont cachés dans le feuillage. Au moment où la colonne atteignait la rive, elle s'est transformée en un génie. Un génie colossal, l'air furieux, qui portait un immense coffre sur sa tête. Le coffre était fermé par 4 serrures. Le génie a marché jusqu'au pied de l'arbre, et il a posé le coffre. Avec les 4 clés qu'il avait autour du cou, il a ouvert les serrures l'une après l'autre. Il a soulevé le couvercle, et une jeune fille est sortie du coffre. Une très jeune fille qui avait des yeux en amande, un corps fin et délicat. Le génie l'a regardée et l'a murmuré « Oh toi, que j'ai enlevé le jour même de tes noces. Assieds-toi, j'ai envie de me reposer. » La jeune fille s'est assise par terre. Le génie s'est allongé, il a posé sa tête sur les genoux de la jeune fille. Bientôt, ses ronflements ont envahi toute la plage. La fille a regardé en l'air. Elle a vu les deux frères cachés dans l'arbre. Alors, tout doucement, elle a soulevé la tête du génie. Elle l'a posée par terre. Puis elle s'est levée. Et elle a fait signe aux deux frères de descendre. Eux, ben, ils n'avaient pas très envie de descendre parce que le génie était vraiment d'une taille impressionnante. Alors elle a murmuré, « Si vous ne m'obéissez pas, je réveille le génie et il vous tuera. » Shahriar et Shahzaman sont descendus. Alors la fille s'est étendue sur le dos, elle a écarté les cuisses et elle leur a fait signe de la prendre. Et devant n'étaient pas très décidés à obtempérer, mais de nouveau, elle les a menacés de réveiller le génie. Alors, ils ont fait ce qu'elle leur demandait, l'un après l'autre. Alors, la fille a sorti de son corsage une bourse où se trouvait un collier, fait de 98 bagues de couleurs et de formes différentes. Et elle a demandé à chacun de lui donner une bague. Elle a enfilé ses deux nouvelles bagues sur le collier. Vous voyez ces bagues, elles appartiennent à des hommes qui ont tous couché avec moi. Ainsi, je me venge de ce démon qui m'a enlevé la nuit même de mes noces et qui me tient enfermé au fond de l'océan dans un coffre fermé par 4 cadenas. Ah, il pense être le seul à me posséder. Il ignore que lorsqu'une femme désire quelque chose, rien ne saurait la vaincre. Et puis, elle leur a fait signe de partir. Elle a repris sur ses genoux la tête du génie. Shahriar et Shahzaman sont aussitôt repartis pour le palais royal. Ce démon, tout démon qu'il est, subit une infortune bien plus grande que la mienne, se disait Shahriar. La ruse des femmes est vraiment sans limite. Dès qu'ils ont été de retour au palais, il a fait décapiter son épouse, ses servantes et tous ses serviteurs. Il a comblé son frère Shahzaman de cadeaux et l'a renvoyé à Samarcande. Puis il a ordonné à son vizir de lui amener chaque soir une jeune fille vierge. Chaque soir, il s'unissait à elle et le matin suivant, il la faisait mettre à mort. Cela a duré pendant 3 ans. 3 ans où chaque soir, Shahriar s'est marié à une jeune fille vierge. Elle a fait tuer le lendemain matin. Dans la ville, les familles pleuraient, les jeunes filles disparaissaient les unes après les autres. Et un jour, le vizir, qui était chargé d'amener chaque soir au roi une jeune fille différente, est rentré chez lui, très inquiet. Il n'avait trouvé aucune jeune fille à amener au roi ce soir-là. Le vizir avait 2 filles. L'aînée s'appelait Scheherazade. La plus jeune, Dunyazade. Scheherazade avait lu beaucoup. Et on disait qu'elle possédait 1000 livres d'histoire et de poésie. Elle s'est approchée de son père et lui a dit « Mon père, je sais ce qui te tourmente. Laisse-moi épouser le roi ce soir. Ou bien je triompherai et je débarrasserai, je délivrerai toutes mes semblables. » Où je périrai comme toutes celles qui ont péri avant moi. » Le vizir, horrifié, a tout fait pour dissuader sa fille. Mais Scheherazade était éloquente, elle était déterminée, et finalement, c'est son père qui a cédé. La mort dans l'âme, il est allé informer le roi de la décision de sa fille. Shahriar était très étonné, et il a rappelé à son vizir, « Tu sais que j'ai juré d'épouser une jeune fille vierge chaque soir et de la faire mettre à mort le lendemain, à l'aube. Et il en sera ainsi pour ta fille, comme pour les autres. » »« Oui, Majesté, oui. Demain matin, elle mourra, » a soupiré le vizir. Scheherazade, pendant ce temps, a expliqué à sa sœur. « Pendant la nuit, lorsque je serai dans la chambre du roi, je te ferai appeler. Alors surtout, ne t'endors pas. Et quand le moment sera venu, « Dis-moi, ma sœur, raconte-moi une de ces belles histoires que tu connais. » À ce moment, je commencerai un récit. Et si Dieu le veut, j'arriverai à débarrasser notre pays du terrible comportement du roi. » Le soir, le roi a épousé Scheherazade. Il l'a fait entrer dans son lit et s'est livré avec elle au plaisir de l'amour. Et à un moment, Scheherazade a dit, « Roi, avant de mourir, j'aimerais tellement dire adieu à ma petite sœur Dunyazade. Le roi, qui était satisfait, qui était de bonne humeur, a ordonné qu'on aille chercher Dunyazade. Celle-ci s'est installée au pied du lit. Et puis, quand elle a jugé le moment propice, elle a demandé « Ma sœur, si tu ne dors pas, raconte-moi une de ces belles histoires que tu connais. » Scheherazade s'est tournée vers Shahriar et a demandé « Je le ferai volontiers si le roi m'y autorise. » Shahriar, qui n'avait pas sommeil, a acquiescé. Scheherazade a raconté. Nuit après nuit, elle a raconté, en prenant bien soin de ne jamais terminer l'histoire avant le lever du jour. Et le roi, qui avait envie d'entendre la fin de l'histoire, lui a fait grâce. Il lui a fait grâce d'un jour, puis d'un autre jour, puis d'un autre, et cela a duré. Cela a duré 1001 nuits. Et chaque nuit, Scheherazade terminait le conte qu'elle avait commencé la nuit précédente, et elle s'arrêtait au milieu d'une histoire. Lorsque l'aurore se levait, chaque matin, le roi lui accordait une journée et une nuit supplémentaires. Jusqu'à la 1001e nuit, où elle a terminé son histoire, et elle a annoncé au roi qu'elle lui avait raconté toutes ses histoires. Mais loin de lui faire couper la tête, le roi, que ses 1001 nuits d'histoire avaient rendu sage, le roi a été trop heureux de garder à ses côtés son épouse fidèle, éloquente et subtile. Les mots peuvent sauver des vies. Et c'est parce que je crois au pouvoir des mots que je raconte des histoires. Et maintenant, après notre plage musicale, nous allons pouvoir rentrer dans une de ces fameuses histoires racontées par Scheherazade.
Yerevan-i şahmarak çig, aşkelten jıbdum. Tu iman kin makuru çinş, tu yesim serdum. Kalis kurko vans yes genum, hez ovna zovcan. Sird hokiz derit sanum, tu iman öman. Thank you.
le talentueux groupe Lavatch pour notre pause musicale. Alors, l'histoire que j'ai choisi de vous raconter donc, correspond à la nuit 989 et s'étale sur plusieurs nuits. C'est l'histoire du gâteau échevelé au miel d'abeille. Dans la ville du Caire vivait un jeune homme, savetier de son état nommé Marouf. Marouf était d'un caractère affable, c'était un brave homme qui était soucieux de sa réputation, mais pauvre. Et très jeune, il avait été marié à une jeune femme nommée Fatima. Mariage arrangé par les familles qui s'est révélé calamiteux. Fatima était surnommée par les voisins la mégère, tant elle se montrait acariâtre et querelleuse. C'est elle qui régentait le ménage, et elle usait et abusait de la patience de son homme, elle l'invectivait dès qu'il rentrait du travail. Et lui, pour éviter les cris, il dépensait tout ce qu'il gagnait pour essayer de la satisfaire. Mais elle n'était jamais satisfaite. Elle le houspillait et des fois elle criait toute la nuit et lui, il ne fermait pas l'œil et il allait travailler le matin complètement épuisé. Un matin, où Marouf partait ouvrir son échoppe, Fatima, la mégère, lui a dit « Rapporte-moi ce soir, je veux manger la kenafa échevelée au miel d'abeille. » Marouf a répondu « Si Allah me fait gagner de quoi en acheter, bien sûr je t'en rapporterai. » Je ne veux rien entendre. Je veux ma kenafa ce soir au miel d'abeille. Hein. Et sinon, je rendrai ta nuit aussi noire que le destin qui m'a fait épouser. » L'infortunée Marie a quitté la maison, le cœur dévoré d'inquiétude. Elle est allée ouvrir sa boutique dans le souk des savetiers. Mais il a eu beau attendre, de plus en plus inquiet à mesure que les heures passaient, personne n'est venu lui donner du travail. Et à la fin de la journée, il n'avait pas eu un seul client. Il n'avait même pas gagné de quoi acheter du pain pour le souper. Le cœur plein d'angoisse à l'idée de ce que sa femme allait lui faire subir, il a fermé sa boutique et il a repris tristement le chemin de sa maison. Et il est passé devant la boutique d'un pâtissier. Là, il y avait la kenafa superbe qui trônait. Le pâtissier connaissait bien Marouf. Marouf avait plusieurs fois réparé ses chaussures. Et il l'a vu, les yeux pleins de larmes, là, devant la vitrine. Alors il lui a demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive, maître Marouf? Et pourquoi pleures-tu ?»« Ah, ma femme, un véritable tyran, exige de la kenafa au miel d'abeille pour ce soir. Moi, j'aurais bien voulu lui en acheter. Je suis restée toute la journée dans mon échoppe, mais personne n'est venu. J'ai rien, j'ai même pas de quoi acheter du pain. »« Ça ne fait rien, » dit le pâtissier. « Combien de livres de kenafa veux-tu ?» « Je pense que 5 onces suffiraient, » a dit Marouf. « Eh bien, je te les pèse et tu me les paieras plus tard, quand tu pourras, quand tes affaires iront mieux. » Le pâtissier a coupé un gros morceau de kenafa. Et elle nageait au milieu du beurre et du miel. Il l'a donné à Marouf en lui disant « Mais tu sais, elle n'est pas sucrée au miel d'abeille, hein. Elle est au miel de canne à sucre. Enfin, au sucre de canne, c'est bien meilleur. » Marouf, vu qu'on lui faisait crédit, il n'allait pas se plaindre. Le pâtissier a dit aussi « Et toi, alors qu'est-ce que tu vas manger pendant que ta femme va se régaler avec le gâteau ? Prends donc ce pain et puis ce morceau de fromage. » Et il lui a remis, en même temps que la succulente kenafa, une galette toute chaude et dorée et un fromage frais enveloppé dans des feuilles de figuier. Marouf a repris son chemin en bénissant son bienfaiteur et tout guirait, il est rentré chez lui avec la kenafa, la galette de pain et le fromage. À peine avait-il passé la porte que sa femme l'apostrophait « Alors, est-ce que tu as apporté la kenafa ?»« Et la voici !» a répondu Marouf en déposant devant elle la pâtisserie. Elle a regardé, a dit « Quoi ? Mais tu l'as fait exprès ?» Mais tu sais bien que je la voulais au miel. Et voilà que tu m'en apportes au sucre de canne. Marouf, elle s'est mise en colère et Marouf, atterré, a dit mais c'est que j'ai pas eu le choix. Le pâtissier m'a fait crédit. Et sa femme lui a balancé le gâteau à la tête en hurlant « Eh tiens, la voilà ta Kenafa !» Elle a sorti ça d'un coup de poing en pleine figure. Maruf s'est mis à saigner de la bouche. Il a eu un geste de défense qui a légèrement heurté sa femme à la tête. Aussitôt, Fatima s'est égosillée. « À moi, les voisins, mon mari m'a frappé, il veut me tuer !» Alors les voisins sont accourus, ils avaient l'habitude de ces disputes. Ils ont arraché le pauvre savetier des mains de son épouse qui était accrochée à sa barbe. Ils ont sermonné la calamiteuse, ils lui ont dit « Mais est-ce que tu n'as pas honte? Comment est-ce que tu peux tyranniser ton pauvre mari comme ça ?» Et tous l'ont blâmé si sévèrement qu'elle a arrêté de crier. Mais dès que les voisins ont été partis, elle a murmuré à Maruf. « Ah, tu es comme ça, hein? Tu montes les voisins contre moi, hein? Ah bah tu vas voir demain ce qui t'attend, tu vas voir !» Elle s'est rencognée dans un coin. Maruf, lui, il avait faim. Alors il a ramassé la kenafa, il s'est mise à la manger et il s'est pourléchée. Il en avait jusqu'au menton. Tout ça sous les yeux flamboyants de son épouse qui marmonnait si elle pouvait étouffer cette kenafa, qu'elle se change en poison et te mange les entrailles. Le savetier, qui n'avait rien mangé de sa journée, s'est attaqué ensuite au pain et au fromage. Il a tout dévoré jusqu'à la plus petite miette. Le lendemain matin, après une nuit bercée par les reproches et les récriminations de sa femme, il s'est levé de bonne heure et s'est rendu à sa boutique en espérant faire de meilleures affaires que la veille. Mais voilà ce qui s'est passé. Il y a deux auxiliaires de justice qui sont venus le chercher. « Ta femme a porté plainte contre toi. » Ils lui ont attaché les mains et ils l'ont emmené chez le juge. Là, il y avait sa femme, son voile tout ensanglanté et qui faisait semblant d'avoir le bras cassé. À toutes les accusations qu'elle a portées contre lui, Maruf, qui avait tellement honte, n'a rien répondu. Il a gardé le silence. Il avait peur du scandale. Le juge l'a condamné à recevoir 20 coups de bâton sur la plante des pieds et à payer les frais du procès. Maruf, humilié, qui pouvait à peine marcher, a dû vendre tous ses outils pour payer. Une fois l'argent remis aux huissiers, il lui restait juste quelques pièces qu'il a utilisées pour acheter un peu de pain et un peu de fromage. Après, il n'avait plus qu'une idée en tête. S'enfuir, fuir sa calamiteuse épouse, aller le plus loin possible d'elle. Alors il s'est sauvé à l'opposé du chemin de sa maison, marchant, clopinant aussi vite qu'il pouvait. Vous savez ce qu'on dit, un malheur n'arrive jamais seul. À ce moment-là, il y a une pluie diluvienne qui est tombée. Et là, devant lui, il y avait un entrepôt abandonné dont la porte était béante. Il s'est réfugié à l'intérieur. Ses vêtements étaient trempés. Il s'est mis à gémir et à se lamenter sur son sort. Mais tout d'un coup, le mur en face de lui a semblé se fendre en deux. Et il y a un immense génie qui en est sorti et qui l'a toisé d'un air menaçant. « Qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi est-ce que tu viens me déranger? Ça fait 200 ans que je dors ici, bien tranquille. Personne n'est venu m'importuner comme toi. » Alors Maruf a raconté sa triste histoire. « Veux-tu que je te conduise loin de ton épouse, si loin qu'elle ne pourra jamais te retrouver ?»« Oh oui. Alors monte sur mon dos. » Maruf ne se l'est pas fait dire deux fois. Il a grimpé sur le dos du génie qui s'est envolé. Du soir jusqu'à l'aube, ils ont volé dans les airs. Et au matin, le génie a déposé son passager sur le sommet d'une montagne. Puis le génie est reparti et Maruf s'est retrouvé seul, complètement éberlué. Eh bien, je vais interrompre pour aujourd'hui cette histoire, car le temps nous est compté et nous allons être obligés de rendre l'antenne. Mais si vous voulez bien, le mois prochain, nous retrouverons la suite des aventures de Maruf le savetier. Thank you. Qu'est-ce qu'elle raconte en direct le quatrième mardi du mois à 11h. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Pour ces histoires des mille et une nuits, je me suis inspirée des différentes versions dont je vous ai parlé tout à l'heure.